Alors Serge, vous qui aimez la vie comme nous, les catastrophes évitées par Montréal, heureusement, par Maxime Bergeron, c'est un texte que vous avez trouvé dans la Presse Plus du 22 décembre 2025.
Oui, juste avant les fêtes.
Elle est passée.
Je l'ai mis de côté pour la nouvelle année. Alors donc, pourriez-vous imaginer le vieux Montréal avec une autoroute plantée dans son cœur?
Non.
Ça a failli arriver, hein? Alors, dans les grandes catastrophes évitées, j'ai parlé tout à l'heure du Mont-Royal, surplombé par une tour, le quartier Milton Park, rasé pour faire place à une forêt de gratte-ciel, ou encore l'avenue McGill College, dotée de la vue la plus spectaculaire sur la montagne, sacrifiée pour faire place à un gros centre commercial.
Ah,
on n'est pas assez près, hein?
Quelle mauvaise idée.
Ces scénarios ne sont pas fictifs. Ils se sont tous passés à un cheveu de se matérialiser. La catastrophe patrimoniale a été évitée à bien des reprises dans la métropole grâce à quelques pionniers de l'urbanisme. Et un organisme en particulier a joué un rôle de premier plan, sauriez-vous le nommer? Héritage Montréal.
Ah oui.
Ben oui, ils ont...
Je suis abonné à Héritage Montréal.
Oui, oui. C'est vraiment... Eux, ils ont fait vraiment beaucoup pour Montréal. Il ressurgit dans les médias dès qu'une vieille affaire est menacée. C'est vrai, ils sont là, ils sont tout le temps là, Héritage Montréal. Le directeur des politiques d'Héritage Montréal a revisité avec le journaliste certains projets aberrants qui ont failli défigurer la métropole à l'occasion des 50 ans de son organisme. Fait quand même 50 ans qu'ils existent, alors c'est une belle fête.
Absolument.
Alors, la plus insolite, mais cette tour de 300 mètres, l'équivalent de 100 étages. C'est haut, là.
Ah!
C'est haut, haut. Que le
un
maire
peu plus haut, un peu plus loin, que Ginette Renaud a chanté sur le Mont-Royal. Mais ça n'avait pas à voir avec cette tour.
Mais 100 étages sur le toit du Mont-Royal,
ouais, 100 étages,
que ça aurait tenu.
Le soleil brille en Adilène.
C'est...
Sur un building de 100 étages.
Ouais. Mais est-ce que le sol aurait supporté ça?
C'était... Heureusement, hein, ça ne s'est pas réalisé.
Oui, oui, oui. Alors, le maire Drapeau et sa personnalité commençaient à susciter beaucoup d'opposition, se rappelle Dino Bumbaru. Ça a coalisé beaucoup de gens, ainsi qu'Héritage Montréal, et on a demandé en 1986 au gouvernement du Québec, Alice Bacon, qui était responsable à ce moment-là de la métropole, le classement du Mont-Royal, ce qu'elle a fait. Les efforts des opposants ont porté le fruit. Drapeau a fini par lâcher le morceau. Mais il a tenu. Je me rappelle, moi, c'était... Il revenait souvent et tout
pour
le faire. Oui, ça a été... Il lâchait pas son bout, Drapeau, hein, tu sais. Ben, tu sais, on a les défauts de ses qualités, qu'on dit. Bon, c'est ça. Il a fait des grandes choses de Montréal, puis d'autres, ben, t'aurais peut-être pas été... Quoi qu'imaginer une tour de 100 étages sur le Mont-Royal.
C'est sûr qu'on l'aurait vu, puis on en aurait entendu parler, puis ça aurait été une attraction, mais
dans
non,
monde,
on ne touchait pas
monde,
à la montagne.
Ben oui. Il aura fallu attendre jusqu'en 2005 pour que Québec accorde un statut patrimonial au parc du Mont-Royal. Mais les premières graines avaient été semées. Non loin de là, la courte avenue McGill College a failli être condamnée au début des années 1980. Pour vous situer, elle va de la place Ville-Marie jusqu'à l'université McGill dans l'hypercentre de Montréal. Elle n'est pas très longue, mais elle offre une très très belle vue sur la montagne. Et un promoteur, Cadillac Fairview, on connaît, hein, de nom.
Oui.
Ambitionnait de construire un centre commercial au milieu de la rue. Alors, ce mur-écran aurait annihilé la meilleure vue sur la montagne. Levée de boucliers, campagne publicitaire dans les journaux, Héritage Montréal a tout fait pour attirer l'attention sur ce fiasco annoncé. Le mouvement a fait boule de neige et, bien sûr, il y a des gratte-ciels qui ont poussé autour, mais McGill College et sa trouée visuelle a survécu. Une destruction de masse du patrimoine a été évitée dans le Vieux-Montréal, dans les années 1960, avant même la naissance d'Héritage Montréal. C'était l'ère du progrès, de l'automobile, du béton et de la banlieue. Il faut placer ça aussi dans le contexte de l'époque. Hein. On voulait moderniser. Alors, tu sais, tout était beau, tout était à faire, puis on n'avait pas peur de démolir pour raser. Bon, aujourd'hui, avec les années, on s'est rendu compte que c'était peut-être pas la bonne chose à faire et qu'il fallait préserver, puis...
Dans les maisons, c'était la même chose.
Absolument.
Dans les antiquités, on y va avec les ameublements chromés.
Oui, oui. Alors, le grand projet de l'époque, faire passer une autoroute dans le centre historique de la ville... Rue de la Commune.
Hérésie.
Imaginez, c'est la rue de la Commune, là, c'est t'as le fleuve après, là, tu sais, ça s'appelait l'autostrade. aurait relié l'échangeur Turcot et son spaghetti de bretelles à l'est de Montréal. Dommage collatéral, la destruction d'un plan entier du Vieux-Montréal, un détail à l'époque. À l'époque, c'est un détail. Hein? Ce n'est pas juste sur la rue de la Commune, c'est aussi des rampes d'accès qui vont défigurer chaque utile de ces urbains. Les bâtiments historiques, tout y passait, tout. Raconte M. Bombarou. C'était un projet complètement de son époque, mais complètement dévastateur. C'est ça, on dévastait, mais on faisait des choses...
On détruisait en masse. Ouais. Dis-nous, Bombarou, est-ce que vous l'avez bien présenté?
Oui,
parce qu'il est associé, c'est un vieux routier d'héritage Montréal.
Oui, avec Mme...
Félix Lambert.
Félix Lambert, oui. Ouais.
Qui protège le patrimoine bâti.
Il me semble que...
C'est peut-être moi qui vous a pas suivi.
Il faut souligner le militantisme d'un couple d'architectes, Blanche et Sandy Van Ginkel. Ils ont réussi à faire avorter le projet. J'ai entendu parler d'eux. On peut leur attribuer
Vous voulez dire?
Elle, oui. On peut leur attribuer la sauvegarde du Vieux-Montréal et la naissance d'un mouvement pro-patrimoine qui a ouvert la voie à Héritage Montréal et à d'autres organismes. Il faudrait leur ériger un véritable monument de reconnaissance pour M. Bombarou.
Merci à Blanche et Sandy Van Ginkel.
Oui. Bien d'autres carnages, plus ou moins grands, ont été évités de justesse. Héritage Montréal a souvent été aux premières loges pour se battre auprès des citoyens et sonner l'alerte dans les médias. Je pense entre autres au quartier Milton Park, niché entre le Mont-Royal et le centre-ville. Il a failli être rasé presque en entier pour faire place à une série de gratte-ciel, un projet réalisé en partie avec les tours d'habitation dont je parlais là. La forte mobilisation a permis de sauver des centaines de résidences patrimoniales et de créer ensuite la plus grande coopérative d'habitation au Canada. Je connais des gens qui habitent là, moi, dans ces coopératives-là.
Ouais.
Et c'était justement l'endroit où ils devaient raser pour construire. Et les Héritage Montréal, entre autres, d'autres organismes ont dit, écoutez, ce sont des maisons architecturales d'époque victorienne ou édouardienne, et on peut simplement rénover ces maisons-là, puis garder tout le cachet du quartier. Et ça a été fait. J'ai une amie qui demeure dans les coopératives, dans ce coin-là, puis elle adore ça. Et c'est très beau, là. Ça a été bien fait. Puis ils sont prêts de tous les services. Alors les gens sont très heureux, puis ça a été préservé.
Serge, je profite de votre aparté pour faire une correction. La preuve qu'ils ont vraiment besoin qu'on érige à leur nom un véritable monument de reconnaissance, comme le disait Dino Bombarou, Blanche et Sandy Van Ginkel. Ginkel, parce que je vous ai repris en disant elle, mais c'est un couple d'architectes.
Ah, c'est ça, oui.
Blanche est une femme et Sandy Van Ginkel est un homme. Mais j'aurais pu dire, c'est un couple, ça aurait pu être un couple de femmes ou d'hommes, là. Mathieu?
Sur le Journal de Montréal, on voit une photo du couple et en dessous, on lit Daniel et entre parenthèses, Sandy Van Ginkel.
Ah, donc, d'accord. Daniel. D'où la méprise.
Parce que Sandy, je pense, c'est un prénom qui peut être pour les femmes ou pour les hommes dans...
Oui, mais ici, on l'appelle S-A-N-D-Y, c'est parce que je l'avais entendu comme Cindy.
Ah, Cindy, non.
D'où la méprise. La fille essaie de s'en sortir comme un peu. Bon, je vous laisse aller.
Avez-vous déjà vu une pinte de lait géante à Montréal?
Oui. Elle existe toujours?
Oui, la célèbre pinte de lait fabriquée en 1930 par la Dominion Bridge de la Chine, qui dépérissait à vue d'œil au centre-ville, a pu être sauvée de la démolition grâce à une campagne orchestrée par Héritage Montréal.
Ah oui?
Ça, on en avait parlé à l'époque, là. Je me souviens de ça. D'autres batailles, malheureusement, ont été perdues. La superbe maison Red Pat au centre-ville est ainsi passée sous le pic des démolisseurs en 2014.
On l'a laissé dépérir, puis on l'a achevé.
Malgré les levées de boucliers. Moi, dans les années 70, la maison Van Horn, j'en ai déjà parlé ici, sur la rue Sherbrooke, un bijou, et elle était... Ils voulaient démolir, le gouvernement disait non, les organismes ont préservé ça, et... le gouvernement avait mis comme un arrêt là, qu'ils appellent de 30 jours. Et moi, je me rappelle, c'était une fin de semaine, et dans ce temps-là, on sortait tard. Hein?
On veillait.
Oui, et puis les activités au centre-ville. Alors, je revenais sur la Sherbrooke avec des amis après notre sortie, et à 2 heures du matin, tu voyais les bulldozers entrer et démolir la maison.
Ils en profitaient pour détruire tout ça pendant la nuit.
Ouais. Et quand ils les ont interrogés, pourquoi? On savait pas, on pensait pas que le contracteur, il s'est trompé de date. C'était comme...
N'importe quoi.
Et c'était un bijou, cette maison-là.
Un bijou disparu.
Oui, oui. Il reste des dizaines d'immeubles en péril aux quatre coins de la métropole, des casernes de pompiers. Ça, on l'oublie souvent, casernes de pompiers, hein, c'est vraiment intéressant.
Oui.
Dans ces hôpitaux, l'hôpital de la Miséricorde, ici pas loin, là.
Ici pas loin.
C'est sur René Lévesque, entre...
Quelqu'un qui nous écoute à Terre-Neuve, là. Oh, ouais, ici pas loin.
Oui, oui. Dans ces hôpitaux, des églises, de vieux bains publics. Les bains publics, s'il y a des beautés en dansant.
Oui, oui, oui.
Héritage Montréal, les recense dans une carte interactive, riche en informations. Ça devrait être intéressant de voir ça.
Et, c'est notre mémoire et notre culture.
Oui,
hein?
Absolument, oui, oui, oui. Mm-hmm. Alors, il pose une question, lui. Je serais curieux de vous lire, de lui envoyer un texte, et pour dire quels immeubles montréalais auraient dû être préservés de la démolition ou devraient l'être à tout prix. Un petit concours.
Belle question.
Oui, oui, oui.
Ben, alors voilà. Merci beaucoup. On y va en musique, puis on se retrouve avec vous, Serge. Des phobies méconnues, Serge Bradet.
Oui, j'avais parlé l'an dernier, là, dans le cours de l'année.
Pas plus tard que l'année dernière.
Pas plus tard que l'année dernière, oui. des phobies connues. Puis j'avais gardé aussi, il y avait une autre partie pour les phobies méconnues, donc on va regarder ça ce matin.
Vous avez trouvé ça où?
J'avais trouvé ça dans le CNews. Quelqu'un m'a envoyé ça sur Internet, là, un de mes pushers ou pusheuses d'informations, d'articles.
Fournisseurs.
Oui. Alors, est-ce que je vais vous nommer le nom, puis vous me direz si ça vous pensez à quelque chose, mais je vous garantis, il y en a un que oui, on peut dire, il est très facile, mais les autres, là. Alors, on commence par...
Si on a l'air fou, c'est parce que...
On n'a pas à s'en faire pour ça.
Ça ne sera pas une phobie.
Ouais. j'ai eu aussi l'air fou en lisant, moi, ça, en regardant en premier. Alors, le premier, l'amaxophobie. AMAXOPHOBIE.
L'amaxo.
Ouais. Est-ce que c'est la peur des salamandres du Nouveau-Mexique?
Ou la peur des mâchoires carrées?
Non, c'est loin, loin, loin là, comme sens. Écoutez, c'est la peur de conduire une voiture et de provoquer un accident. De l'amaxophobie.
Oui. Il y en a qui devraient l'avoir, cette
peur-là. Oui. Cette phobie se traduit par des crises d'angoisse au moment de prendre le volant. Ce mot vient du grec amaxo, qui signifie véhicule, et de phobia, la peur. Le prochain, la trypophobie. T-R-Y-P-O-P-H-O-B-I-E.
Tripo.
Ouais. Je trouve ça bien difficile à.
Oh. La peur des magasins usagés.
La peur de tricoter en fumant du pot.
Vous êtes loin, 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 loin. Figurez-vous que lorsque vous voyez une ruche d'abeilles, vous détournez automatiquement le regard.
Ah oui?
Oui. Alors, vous souffrez peut-être de trypophobie.
Ah, vous avez peur des abeilles?
Non,
de
c'est
vous faire
la
piquer?
Forme. Je pense.
Non, c'est la peur des trous.
OK.
Pas des abeilles, mais des trous. Ou plus précisément, des surfaces remplies de petits trous. Râpe à fromage, passoire, tout ça.
Pas nid de poule.
Oui, mais je connais personne qui a sauf de ça.
Mais tout le monde a peur des nids de poule.
Oui.
Ah non, mais moi non plus.
La prochaine, là, est vraiment facile, si vous l'avez
mais
là, pas.
Mais là, mettez-nous pas cette pression-là. Nous autres, on a cette phobie-là méconnue d'avoir l'air fou.
Alors, écoutez, la barbierophobie.
Ah, ben oui. La phobie des barbes.
Oui.
Mathieu, y a-t-il des gens qui ont peur de vous, vous qui portez la barbe?
Je n'ai pas une barbe.
Ben,
quand
même.
C'est un jeune duvet.
C'est pas la peur des barbes, non.
Ah!
Non. C'est pour la plupart des personnes, aller chez le coiffeur est synonyme de détente.
Ah, oui.
Mais pour d'autres, c'est un véritable supplice. Et la peur d'aller se faire couper les cheveux dans un salon a un nom, la barbierophobie.
Ah!
Ben
oui. Barbierophobie.
Oui, barbierophobie.
Eh bien.
Ensuite, un autre, la phobophobie. P-H-O-B-O-P-H-O-B-I-E.
Non, ça ne me dit rien.
La phobophobie est la peur d'avoir peur.
Oh!
Plus précisément, une personne souffrant de phobophobie redoute de se retrouver dans un endroit où elle pourrait ressentir de l'anxiété et anticipe son état de panique et ses réactions, tremblements, palpitations.
Ouais.
Bon, on a tous connu ça un petit peu.
Oui,
on arrive sans être
Être humain, c'est...
Ouais, ben
ça
oui.
Fait partie...
Oui.
L'anxiété fait partie de ce qu'on est comme humain aussi.
Oui. L'autre, la stasophobie. S-T-A-S-O.
Phobie.
La peur de la boîte.
Mathieu dit n'importe quoi.
La stasophobie, c'est la peur d'avoir à rester debout.
Ah!
En effet, les individus concernés ont peur de rester dans cette position pendant un certain laps de temps, particulièrement devant un auditoire. Ils préfèrent rester assis dans leur coin.
Ça peut être une peur, ça.
Ouais. Mm-hmm. La logophobie, L-O-G-O-P-H-O-B-I-E.
La peur des logos. Facile, facile.
La peur du premier ministre.
Bien, si on se fie au titre, il y aurait, quand on pense à logo, c'est les personnes atteintes de logophobie ont peur de parler en public et de dire certains mots. Parfois, elles redoutent également de les lire, voire de les écrire. Des fois, vous avez peur, dans une série, une comédienne dont on lui avait donné la situation, c'était, elle annonçait une marque de champagne, et c'était la veuve Clicquot. Et elle dit, il ne faut pas que je dise veuve Clito, veuve Mais Clito, non. veuve Clito. Et effectivement, elle prend le micro et elle dit veuve Clito.
Ah oui, le pied dans la bouche. Mais oui. C'est arrivé aussi à plusieurs annonceurs, annonceuses.
Ouais.
Quand on fait le métier de communication, ça peut arriver.
La carminophobie.
Et ça peut être drôle, mais ça peut être aussi très, très... on peut se sentir mal pendant longtemps.
La carminophobie, ça, tout le monde, je vous garantis, tout le monde en souffre.
Ah oui,
carminophobie. On est tous carminophobie.
La peur de Georges Bizet?
Non. Derrière le mot carminophobie se cache la peur d'avoir, attention, des gaz intestinaux et de flatuler.
Ooh.
Et cette phobie, aussi appelée aérocolophobie, concerne généralement les jeunes couples.
Bon.
Ça veut dire que les vieux couples,
on s'en fout. Mais quand c'est une phobie, c'est parce qu'on y pense de façon obsessive. Là.
Ouais,
on n'a pas nécessairement cette peur-là.
Vous avez la chérophobie, C-H-E-R-O-P-H-O-B-I-E. Ça, c'est tout le monde recherche le bonheur, sauf ceux qui souffrent de chérophobie. Du grec ancien « kairo », ce qui veut dire « se réjouir, être heureux », la chérophobie désigne la crainte de la gaieté et du bonheur.
Ah.
On peut souffrir de ça, oui. Les personnes atteintes pensent que tout sentiment de joie sera forcément compensé plus tard par un grand malheur.
Oui, fuir le bonheur de peur qu'il se sauve.
Mm-hmm. L'ergophobie. L'ergophobie, du grec ergon, signifiant travail, se traduit par une peur irrationnelle et exagérée de se rendre sur son lieu de travail.
L'ergophobie?
Oui. On parle d'ergophobie quand cette angoisse perdure dans le temps et se manifeste tout au long de la journée. Il y avait un article dans la Presse Plus, là, ces jours-ci, sur ça, justement, quand vous êtes malheureux au travail, là, vous avez peur.
Mais c'était hier, je crois.
Oui. Un dernier. L'omphalophobie. O-M-P-H-A-L-O-P-H-O-B-I-E.
Bon, qu'est-ce que vous allez nous sortir,
là? Là, si vous vraiment, là, c'est aller loin. Là.
Phallo.
Une personne souffrant d'omphalbolophobie a une peur intense des nombris.
Ah oui!
ça rejoint une des premières phobies dont vous avez parlé.
Oui, avoir peur des trous.
Ouais. Ouais.
Elle ne supporte pas de voir ou de toucher un nombilic, et ce, que ce soit le sien ou celui de quelqu'un d'autre.
Ah, en plus, le sien. comment ça s'appelle déjà cette peur-là?
L'omphalophobie.
L'omphalophobie.
O-M-P-H-A.
OK.
Omphalophobie.
Je connaissais quelqu'un qui, lui, avait la phobie des orteils.
Ah oui?
Oui, mais je ne sais pas comment ça s'appelle. Si ça a un nom, premièrement.
Ouais. Ça doit être sûrement, ils trouvent des noms pour tout.
Orteillophobie.
On doit sûrement trouver ça sur Internet.
Serge, merci pour votre collaboration de cette belle journée. C'est la première de 2026, et non pas la dernière. On se retrouve probablement la semaine prochaine.
Absolument.
Et je salue au passage nos collaborateurs, collaboratrices du mercredi. Isabelle Falardeau, qui soigne un mauvais rhume. Hein, c'est la tendance de ce temps-ci. Il y a plein de monde malade. Soignez-vous bien, Isabelle, et au plaisir de vous retrouver. Puis Daniel Lachance revient nous voir. Je crois qu'il a confirmé pour le 14 janvier.
À la semaine prochaine?
La semaine prochaine? Ah, ben
on,
oui.
On est le 7, ben oui, 14.
Ah,
oui,
c'est la semaine prochaine. Mm-hmm. Alors, on sera réunis soit deux, soit trois. On verra. C'est toujours une surprise.
D'accord.
Merci beaucoup. À venir, la chronique de Julien Caillouette.